Retour à Nauphles.
Était-elle donc si petite la maison de banque de Nauphles, et si basse l'église de l'autre côté du minuscule champ de foire, et si étroit le chemin montant qui tournait pour aller vers Cresset, Thoiry, Septeuil? Le souvenir et la nostalgie agrandissent étrangement la réalité des choses. 9 années écoulées. Cette façade, ces arbres, ce clocher, venaient de rajeunir Guccio de 9 années. Ou plutôt non, de le vieillir au contraire, de tout ce temps écoulé. Guccio avait retrouvé instinctivement son geste de jadis pour s'incliner en passant la porte basse qui séparait les deux pièces de négoce du comptoir au rez-de-chaussée. Sa main avait cherché d'elle-même la corde d'appui, le long du madrier de chêne qui servait d'axe à l'escalier tournant, pour monter à son ancienne chambre. Ainsi c'était là qu'il avait tant aimé, comme jamais avant, comme jamais depuis. La pièce exiguë collée sous les solives du toit sentait la campagne et le passé. Comment un logis si resserré avait-il pu contenir un aussi grand amour? Par la fenêtre, à peine une fenêtre, une lucarne plutôt, il apercevait un paysage inchangé. Les arbres étaient fleuris en ce début de mai, comme au temps de son départ 9 années plus tôt. Pourquoi les arbres en fleurs dispensent-ils toujours une si forte émotion? Entre les branches dépêchées, roses et arrondies comme des bras, apparaissait le toit de l'écurie, cette écurie dont Guccio s'était enfui devant l'arrivée des frères Cresset. Ah, la belle peur qu'il avait eue cette nuit-là! Il se retourna vers le miroir d'étain, toujours à la même place sur le coffre de chêne. Chaque homme, au souvenir de ses faiblesses, se rassure à se regarder, oubliant que les signes d'énergie qu'il lit sur son visage ne font impression qu'à lui-même, et que c'est devant les autres qu'il fut faible. Le métal poli au reflet de grisaille renvoyait à Guccio le portrait d'un garçon de 30 ans, brun, avec une ride assez profondément creusée entre les sourcils, et 2 yeux sombres, dont il n'était pas mécontent car ces yeux-là avaient vu déjà bien des paysages, la neige des montagnes, les vagues de 2 mers, et allumé le désir dans le cœur des femmes et soutenu le regard des princes et des rois. « Guccio Baglioni, mon ami, que n'as-tu continué une carrière si bellement commencée ? Tu étais allé de Sienne à Paris, de Paris à Londres, de Londres à Naples, à Lyon, à Avignon. Tu portais message pour les reines, trésors pour les prélats. Pendant 2 grandes années, tu as circulé ainsi parmi les plus grands seigneurs de la terre, chargé de leurs intérêts ou de leurs secrets, et tu avais à peine 20 ans. Tout te réussissait. Il n'est que de voir les attentions dont on t'entoure à présent au retour de 9 années d'absence, pour juger des souvenirs que tu as laissés. Le Saint-Père lui-même te le prouve. Aussitôt qu'il te sait le retour en Avignon pour un banal recouvrement de créances, lui, le souverain pontife, du haut du trône de Saint-Pierre et submergé par tant de tâches, il demande à te voir. Il s'intéresse à ton sort, à ta fortune. Il a la mémoire de se rappeler que tu as eu un enfant jadis. Il s'inquiète de te savoir privé de cet enfant. Il consacre à te conseiller quelques-unes de ses précieuses minutes. Un fils doit être élevé par son père, te dit-il. Et il te fait délivrer, sauf conduit, de messager papal, le meilleur qui soit. Et Bouville. Bouville, que tu viens trouver, porteur de la bénédiction du pape Jean, et qui te traite ainsi qu'ami depuis longtemps attendu, et qui a de grosses larmes dans les yeux en te voyant, et qui te délègue un de ses propres sergents d'armes pour t'accompagner dans ta démarche. Et te remet une lettre cachetée de son sceau adressée au frère Cresset, afin qu'on te laisse voir ton enfant. Ainsi les plus hauts personnages s'occupaient de Guccio, sans aucun motif intéressé, pensait celui-ci, simplement pour l'amitié qu'inspirait sa personne, pour l'agilité de son esprit, et sans doute pour une certaine façon de se conduire avec les grands de ce monde, qui lui était un don de nature. Ah, que n'avait-il persévéré ! Il aurait pu devenir l'un de ces grands lombards puissants dans les États à l'égal des princes, comme Macchi dei Macchi, gardien actuel du trésor royal de France, ou bien comme Frescobaldi d'Angleterre, qui entrait sans se faire annoncer chez le chancelier de l'échiquier. Était-il trop tard après tout? Bien au fond de lui-même, Guccio se sentait supérieur à son oncle et capable d'une plus éclatante réussite. Car le bon oncle Spinello, à froidement juger, faisait un négoce assez courant. Capitaine général des Lombards de Paris, il l'était devenu à l'ancienneté. Il possédait du bon sens, certes, et de l'habileté, mais point un exceptionnel talent. Guccio considérait tout cela de façon impartiale, à présent que, passé l'âge des illusions, il se sentait un homme de raisonnement pondéré. Oui, il avait eu tort autrefois. Or, sa malheureuse aventure avec Marie de Cressey, il ne pouvait se la cacher, était la cause de ses renoncements. Car pendant de longs mois, sa pensée n'avait été occupée que par ce déplorable événement, tous ses actes commandés par la volonté de dissimuler cet échec. Ressentiment, déception, abattement, honte de revoir ses amis et ses protecteurs après un dénouement peu glorieux, rêve de revanche. Son temps s'était usé à cela, tandis qu'il s'installait dans une nouvelle vie à Sienne, où l'on ne savait de ses amours de France que ce qu'il voulait bien en dire lui-même. Ah, elle ignorait cette ingrate Marie, la grande destinée dont elle avait brisé le cours, en refusant autrefois de fuir avec lui. Que de fois, en Italie, il y avait amèrement songé. Mais maintenant, il allait se venger.